Suivez Priorité Santé avec la BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, qui rejoint officiellement le groupe Sounou.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Le lien entre l'environnement et la santé n'est plus à démontrer. De nombreuses études, tout comme d'ailleurs un certain nombre de scandales sanitaires, sont venues prouver à quel point le vivant subissait les conséquences de son milieu. Certaines législations interdisant ou limitant l'usage de produits toxiques identifiés, pesticides, amiantes, ont été adoptées en fonction des régions comme de la pression des opinions publiques pour protéger les populations. Prise de conscience, observation en fonction des usages, et s'il existe des facteurs bien identifiés, dont nous allons parler au cours de cette émission, notamment dans le domaine de la santé respiratoire, et plus généralement des maladies chroniques, le contexte général du réchauffement climatique vient aussi changer la donne à plusieurs niveaux. Les écosystèmes se transforment, les risques évoluent, tout comme la prise de conscience collective de ces changements pour la santé humaine et animale. Conséquences en termes de diffusion des infections, conséquences pour l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons. Influence aussi de l'urbanisation, du stress, des bouleversements sociaux sur l'équilibre psychique, avec à la clé non seulement l'émergence de nouveaux risques, mais aussi l'aggravation de certains symptômes chez des personnes déjà vulnérables. Impact en termes de santé physique et mentale, avec donc ces risques dont nous allons parler, mais aussi pour certains, la volonté de changer de cadre, changer d'air, changer de vie, pour retrouver un environnement qui fait du bien. L'impact de l'environnement sur notre santé, mieux identifier les facteurs de risque pour essayer de s'en protéger. Au-delà de la conscience individuelle, une préoccupation de santé publique. Trois invités avec nous. Nous vous retrouvons en studio. Docteur Lucile Cézé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pneumologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny en région parisienne, bénévole à la Fondation du Souffle. Au Sénégal, nous vous retrouvons. Professeur Abdoulaye Ley, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes chef du service de médecine interne endocrinologie diabétologie au Centre hospitalier national universitaire de Pikin près de Dakar et vous enseignez professeur à la fac de médecine de l'université Cheikh Diop. Et puis on joindra tout à l'heure de l'autre côté de l'Atlantique le docteur Théo Korchia, il est chef de clinique de psychiatrie à l'AP Hôpitaux de Marseille, conférencier enseignant à la fac de médecine d'Aix-Marseille, chercheur actuellement détaché à l'université McGill de Montréal.
Priorité santé sur RFI.
Alors, énorme sujet, impact de la santé sur l'environnement, impact du réchauffement climatique, mais aussi de l'accès à l'assainissement, de l'urbanisation. Une approche extrêmement large dans la mesure où les conséquences concernent toutes les spécialités de la médecine. Aujourd'hui, on a donc choisi de nous arrêter sur quatre d'entre elles, hein, santé respiratoire, endocrinologie, médecine interne, santé mentale. Docteur Lucile Cézé, c'est vrai que lorsqu'on évoque l'environnement, on y associe presque automatiquement la qualité de l'air, les conséquences de la pollution. Et on peut dire vraiment que cette pollution aujourd'hui, elle a de nombreux visages.
Merci beaucoup. Merci de m'inviter pour vous parler de ce sujet qui est vraiment important, sensible et qui donc affecte particulièrement nos malades en santé respiratoire. Donc oui, la pollution a plusieurs visages. Maintenant, nous, pneumologues, on essaye d'en parler plus régulièrement avec les patients au même titre que le tabac. Et parce qu'on sait maintenant que la pollution de l'air va être à l'initiative de certaines maladies, notamment l'asthme chez l'enfant, du cancer chez le non-fumeur, par exemple, ça a été bien montré. Et puis surtout, la pollution de l'air va favoriser les poussées des maladies, donc les exacerbations de fibrose, d'asthme, de bronchite. Et donc, les patients doivent se sensibiliser à cette information de la qualité de l'air, être à l'écoute, et puis donc consulter s'ils ont une aggravation de symptômes. Et puis également, on fait aussi attention sur la qualité de l'air intérieur. On leur apprend à être attentif à ça.
On va en reparler. On pense bien sûr à cette pollution automobile, agricole, industrielle, mais c'est qu'on pense peut-être moins à la nature. On associe plutôt la santé à la nature. Or, avec le réchauffement climatique, la nature, elle change. La saison des pollens n'est plus la même. Les personnes qui sont allergiques le ressentent. Hein. On peut dire qu'ils ont un détecteur intégré avec ce nez qui commence à picoter beaucoup plus tôt et peut-être même, en fonction des années, des symptômes qui peuvent être assez différents.
Oui, tout à fait. D'abord, ils sont gênés pour certains pollens sur une période beaucoup plus précoce et sur une période beaucoup plus longue. Donc oui, cette nature se change avec le changement climatique et va donc modifier la présentation de certaines maladies. Et puis de nouvelles sensibilisations pourraient également apparaître. Ça c'est un volet. Puis il y a aussi le climat qui, avec les températures extrêmes, va aussi avoir un effet sur nos patients. On est en train de vivre des modifications de notre environnement et on demande à nos patients de rester très vigilants.
C'est vrai qu'il y a tous les appels à chaque fois qu'il y a des épisodes caniculaires. Dans l'actualité actuelle, on voit ce qui se passe au Canada, par exemple. Ces feux de forêt, ces incendies à grande échelle. Et là, on va dire très concrètement, les effets pour la santé respiratoire, c'est catastrophique.
Là, on voit des passages aux urgences qui se produisent dans les semaines, les jours qui suivent un événement de ce type et qui, chez des sujets sains, vont avoir des effets et bien sûr chez des sujets qui présentent déjà une pathologie chronique.
Des questions très générales. Il y a celle posée sur Facebook par Roy de Lubumbashi. Il demande quelles sont les maladies les plus graves que peut entraîner la pollution chez l'homme. Vous avez déjà cité l'asthme. Dans votre domaine, un certain nombre de maladies respiratoires. Vous disiez même des cancers du poumon, y compris chez les non-fumeurs.
Oui, donc ça, ça a été montré bien dans les pays où on utilise donc de la combustion de biomasse, c'est-à-dire pour la cuisine. Mmh. Donc ça, ça a été bien montré dans certains pays. Mais maintenant, il y a eu également en Angleterre des études expérimentales qui ont montré que l'exposition aux particules fines pouvait induire la prolifération de cellules cancéreuses en l'absence d'exposition tabagique. Donc ça, c'est effectivement, ça reste des maladies graves. Et puis il y a les infarctus, hein, tout simplement. Donc, qui peuvent être déclenchés suite à des pics de pollution. Donc, il y a plusieurs maladies qui peuvent être, qui sont des maladies graves, qui ont également d'autres causes que la pollution, hein, mais qui peuvent être sujettes à ces pics de pollution.
Avec des exacerbations. Professeur Abdoulaye Lay, on vous retrouve. On parle des conséquences en termes d'environnement sur la santé. Est-ce que pour vous, il y a une prise de conscience généralisée? C'est vrai que quand on écoute l'actualité, le mot réchauffement climatique intervient pratiquement systématiquement dans un journal, à la radio, à la télé. Est-ce que pour vous, qui vivez au Sénégal, c'est quelque chose qui préoccupe les populations ou pas vraiment?
À vrai dire, le sentiment que j'ai, c'est que ça ne préoccupe pas tellement les populations, non, parce qu'ils sont sur d'autres priorités, sur d'autres urgences, qui sont alimentaires, qui sont sanitaires, immédiates, aiguës. Alors que les effets de cette pollution, c'est à long terme peut-être, c'est sur les affections chroniques. Et il y a des causes beaucoup plus immédiates que l'on voit dans la vie de tous les jours.
Des gens qui sont plus préoccupés par le quotidien immédiat. De votre côté, vous qui êtes endocrinologue, spécialiste aussi en médecine interne, est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous avez une vision pour savoir si ces maladies liées à l'environnement sont plus fréquentes?
Alors, ça peut être un peu difficile au plan purement scientifique de faire le lien entre cette fréquence apparente des maladies les modifications ou la pollution au niveau de l'environnement. Mais il est très clair que les types de maladies et leurs fréquences que nous voyons en termes de médecine interne ou d'endocrinologie sont vraiment beaucoup plus fréquentes. À titre d'exemple, dans les années 90, en faisant le stage en neurologie, pratiquement on ne voyait pas d'Alzheimer, mais maintenant, dans nos services de médecine, on voit Alzheimer, on voit des Parkinson avec des comorbidités. On a des malformations génitales, des micropénis, ce qu'on ne voyait pas avant. Il est clair qu'il se passe quelque chose qui fait que dans la population, certaines affections que nous ne voyons pas sont devenues beaucoup plus fréquentes et plus préoccupantes.
Malformations génitales, hein, on peut faire le lien, il peut y avoir une enquête, une investigation médicale qui est lancée. Et c'est vrai que ça peut renvoyer vers des changements environnementaux de type perturbateurs endocriniens. J'imagine que c'est bien à cela que vous faites référence, professeur.
Absolument, absolument. Par le biais des perturbateurs endocriniens, en fait, tout ce qui est pollution dans l'environnement, que ce soit par l'air, l'eau ou par le sol, à un moment ou à un autre, il y a un carrefour avec le système endocrinien. Et là, c'est une liste extrêmement importante de perturbateurs potentiels. Et c'est dans notre alimentation, c'est dans les substances que nous utilisons. Et que ce soit la thyroïde, que ce soit les organes génitaux, que ce soit les glandes surrénales, que ce soit la thymie de façon générale, véritablement le système endocrinien est la cible favorite de tous ces polluants de l'environnement.
C'est vrai que quand on parle de la santé au Sud, hein, on parle du virage épidémiologique dans le sens où les maladies chroniques sont de plus en plus présentes, hypertension artérielle, diabète. Là aussi, sur ces grandes maladies, l'environnement peut jouer un rôle absolument essentiel.
Absolument. C'est-à-dire que rien qu'en prenant les additifs alimentaires, qu'en prenant le virage sur l'industrialisation, le bisphénol A avec les produits plastiques qui sont utilisés comme éléments de conserve, qui sont les rayonnements ionisants, les radiations électromagnétiques, nous sommes vraiment dans une... Ça va avec le développement qui est tout à fait souhaité. Mais effectivement, on ne prend pas les précautions qu'il faut pour ne pas tomber dans les mêmes travers peut-être qu'il y a dans les pays développés, malheureusement. Et l'augmentation de la fréquence de l'incidence de l'obésité, du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires, des AVC que l'on voit à des âges très jeunes ou des infarctus du myocarde, comme une épidémie de mort subite qui se passe, il y a effectivement quelque chose qui se passe dans notre environnement. Les pistes, ce ne sont pas ce qui manque. Et le biais de l'alimentation, le biais des pesticides, en tout cas de la pollution de l'eau, surtout, et des aliments, ce sont véritablement des choses qu'il nous faut creuser pour en faire la preuve et avoir un système de prévention qui soit vraiment conséquent à court, moyen et long terme.
Vous disiez tout à l'heure, professeur, les populations, bien sûr, avec l'urgence socio-économique, hein, il y a d'autres priorités dans la vie quand on a du mal à faire bouillir la marmite, comme on dit. Par contre, du côté des soignants, est-ce que cette prise de conscience, elle est là?
Les soignants, c'est d'abord une frange de la population qui vivent les mêmes galères en réalité. Ouais. Et en fait, c'est l'écoute ou l'attention du patient qu'on a devant nous qui nous impose en fait notre discours et notre conduite à tenir. On a beau essayer de sensibiliser quelqu'un sur diminuer le sel, diminuer le sucre parce que tu es obèse, diminuer le gras, mais si c'est pas lui qui détermine le régime alimentaire à la maison, ou même s'il n'est pas sûr de trouver les légumes qu'on veut lui proposer ou les fruits à la place de prendre que le riz et le gras, ben, ça pose problème. Tout le monde est sensibilisé sur les ajouts de sel avec les bouillons, etc. Mais c'est aujourd'hui que dans la population que c'est encore beaucoup plus largement utilisé. Même si le chef de famille dit n'utilisez pas de bouillon, ben, l'aide ménagère va se débrouiller pour en trouver ou bien une autre personne va le faire. C'est devenu très compliqué.
De passer des conseils à la concrétisation. On va voir tout de suite un premier témoignage d'auditeur. Pour ça, on part en République démocratique du Congo.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
C'est donc vous qu'on retrouve, Maurice. Maurice, bonjour. Maurice, avec nous, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Maurice. Alors vous travaillez dans le secteur de l'environnement, vous avez 28 ans, vous êtes ingénieur. Est-ce que vous pouvez nous parler, s'il vous plaît, de votre environnement, vous à Kinshasa? Qu'est-ce que vous pouvez en dire?
Par rapport à notre environnement à Kinshasa, nous constatons que notre environnement est tellement pollué et certainement les rivières sont remplies de bouteilles plastiques et cette situation est alarmante et pose des problèmes par rapport à la santé de la population.
Est-ce que vous ressentez des effets concrets sur votre santé, certains problèmes particuliers?
Oui, moi personnellement, je ressens des problèmes par rapport aussi à la pollution de l'air, aux poussières, aux matières de suspension et aussi liées aux moyens de transport. Quand j'essaye de prendre les bus et les gaz, là, ça me fait très mal. À un moment, je peux vomir et tout. Et par précaution, j'ai dû prendre des mesures préventives à ne pas plus prendre beaucoup de transports en commun.
Mmh. Est-ce qu'avant vous viviez dans une autre ville de RDC, est-ce que vous sentiez des différences sur votre bien-être, sur votre santé?
Il y a une grande différence entre la vie de Kinshasa et en province, par exemple, parce que je viens de l'intérieur.
Ouais.
Et là-bas, on n'utilise pas certainement des matières en plastique. Et ici, dans nos activités quotidiennes, c'est plus les plastiques. On y manipule à tout moment.
Vous veniez de quelle ville de l'intérieur, Maurice?
Moi, je viens de Niélé, dans le Sud-Oubang.
D'accord. Et là-bas, on va dire qu'on vivait plus simplement, avec moins de matériaux industriels?
Bien sûr, là-bas, on vivait en parfaite harmonie avec la nature. Il n'y avait pas certainement des activités anthropiques à grande échelle qui peuvent déséquilibrer ou polluer l'environnement.
Mais en même temps, certains répondront, oui, mais c'est aussi le sous-développement, il faut quand même avancer en avant. Qu'est-ce que vous dites justement sur ce conflit entre modernité et pollution?
Et par là, ce que moi je peux dire, c'est que toutes les activités que l'homme peut exercer pour son survie ou son développement doivent être en parfaite harmonie avec l'environnement.
Mmh. Qu'est-ce que vous avez observé qui vous inquiète? C'est vrai qu'à plusieurs reprises dans notre échange, vous avez parlé de ces fameux plastiques. Vous avez des inquiétudes particulières par rapport à ça?
Oui, et certainement, parce que dans la plupart des cas, dans l'environnement, nous trouvons des poubelles sauvages remplies de plastique. Il y a aussi un fléau ici à Kinshasa. Peut-être d'autres rivières vont disparaître parce qu'ils sont tellement amassés par des bouteilles plastiques et cette situation m'inquiète.
Sans compter aussi le déversement des effluents humains, hein, du contenu des toilettes aussi dans certaines rivières. On peut dire que c'est absolument répugnant, tout ça mélangé. Vous regrettez la qualité de vie que vous aviez quand vous étiez dans cette région, si j'ai bien compris, de Lubangui?
Bien sûr.
Ouais. C'était vos belles années, vos vertes années, comme on dit.
Oui, oui.
Alors, vous avez une question précise. Le professeur Abdoulaye Ley, il est à Dakar. Il vous écoute. Il est spécialiste notamment des maladies endocriniennes. Allez-y pour votre question, s'il vous plaît, Maurice.
Oui, ma question est celle de savoir si les experts ou les invités qui sont là peuvent donner un conseil à la population qui sont plus exposées à la pollution plastique et aussi à la pollution de l'air. Les mesures à prendre pour ne pas être affecté.
C'est vrai qu'on parle de prévention, mais quand c'est partout autour de nous, on se demande des fois comment est-ce qu'on peut faire. On ne peut pas non plus vivre dans une bulle. Professeur Abdoulaye Ley, la pollution plastique, est-ce qu'on a des informations sur les conséquences concrètes de ces plastiques, de ces microplastiques? Il y a des réunions tout le temps pour en parler, pour essayer de limiter les choses. Il y a des mesures qui sont prises au niveau des États. Mais malgré tout, on apprend que on en produit de plus en plus de plastique. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cet auditeur de Kinshasa? Vous êtes avec nous, professeur Ley, en ligne du Sénégal? Ah, on n'entend pas. Alors, on va essayer de vous rejoindre par téléphone pour répondre à cette question sur les microplastiques. Je me tourne vers vous en studio, docteur Lucille Cézé. Il se pose une question très concrète, hein, notre auditeur Maurice. Je vis à Kinshasa, il y a les autobus, c'est très polluant. L'air que je respire est pollué. Moi, comment je fais pour continuer à travailler, continuer à vivre dans cet environnement?
Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, le tabac, on peut s'en extraire en arrêtant de fumer, mais malheureusement, la qualité de l'air, on ne peut pas s'en extraire. Donc, ce qu'on peut simplement conseiller, c'est d'abord d'éviter de cumuler les expositions. Donc, c'est-à-dire d'éviter les autres co-expositions, limiter toute forme de combustion dans l'environnement intérieur. Parce que, en fait, voilà, la simple combustion, quels que soient les matériaux, dans son propre logement, va émettre énormément de particules. Ça, c'est la deuxième chose. Et ensuite, aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation sur certains masques. Mais on sait que, et on l'a vu avec le Covid, peut-être que ça réduit un peu certaines inhalations.
Vivre masqué quand on vit en Afrique avec la température,
c'est compliqué.
C'est pas évident. Hein.
Non,
pas
mais
évident.
Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un vrai problème et que c'est aux instances d'essayer de mettre dans des objectifs d'assainir la qualité de l'air.
Est-ce qu'on peut améliorer, par exemple, l'air intérieur par rapport à l'aération, par rapport aussi à une hygiène, aspiration, etc.?
Alors, c'est certain qu'une ventilation quotidienne et plutôt matinale, 20 minutes par jour, améliore la qualité de l'air intérieur. Et puis, alors les filtres d'air, pareil, aujourd'hui, on n'a pas de recommandations précises à ce niveau-là. Mais voilà, éviter les co-expositions et aérer tous les jours au moins 20 minutes.
Aérer, ça, c'est très important. On vous a retrouvé, professeur Abdoulaye Ley. Maurice, il y avait une question sur les microplastiques. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce sujet ?
Alors, ça, je crois que sa question, c'était comment se prémunir de ce risque lié au plastique.
Absolument.
L'idéal, c'est de retourner ou c'est de quitter l'environnement où c'est polluant, ce qui peut être très difficile. Je crois qu'il devrait plus souvent les week-ends ou à chaque fois que possible aller retrouver son ancien environnement naturel. Alors, ça, c'est un peu plus difficile. Il faut évaluer les risques puisque c'est un professionnel, mais il est aussi dans, obligé de se déplacer. Il faut évaluer les risques et les combattre à la source. Hein. Identifier tout ce qui peut être plastique, mais ça, il y en a partout. C'est le verre avec lequel on boit, ce sont les lunettes, c'est dans le bus, les poteaux, etc. Et il faut essayer de remplacer ce qui est dangereux, supposé, par ce qui l'est moins. C'est-à-dire que ne pas utiliser ce qui est en plastique, utiliser ce qui peut être fait en papier, si c'est les emballages, etc. Mais surtout, il faut privilégier les mesures collectives. Et ça, c'est à l'échelle vraiment de l'État, des autorités, plutôt que les mesures de protection individuelle. Parce que individuellement, si on veut se prémunir, alors que dans la famille, on est en contact avec d'autres qui ne le font pas, c'est vraiment pas très, très, très productif.
On comprend bien que c'est une véritable question de santé publique. En tout cas, un grand merci, Maurice, pour votre témoignage. Maurice, j'ai juste une petite question. À la maison, vous faites comment la cuisine? Avec quel équipement?
Mais on utilise les braises.
Les braises, ouais. Et c'est dans la cour ou c'est dans la maison?
Non, c'est dans la cour.
Dans la cour, donc c'est bien mieux de le faire effectivement en extérieur, parce que sinon, la cuisinière, le cuisinier se retrouve exposé à des particules et c'est vraiment préjudiciable pour la santé respiratoire. En tout cas, un grand, grand merci pour votre témoignage. On reste ensemble. Hein, en deuxième partie d'émission, on aura l'expertise de l'un de vos confrères psychiatres qui travaille en particulier sur les facteurs de risque d'entrée dans certaines maladies psychiques. On ira aussi à la rencontre de celles et de ceux qui changent de cadre de vie pour essayer de retrouver la tranquillité, tout simplement pour une bonne santé. Ce sera à suivre juste après le duo Youssoufa Oumou Sangaré, tous vivants. Youssoufa yo.
Comment Dieu est grand comme je suis petit. Je me nourris de la terre que je piétine. La nature comme un luxe, comme un prestige. Mon cœur est seul, presque comme une presqu'île. Esquive, esquisse. Un tableau de notre époque, respire. Oumou m'a dit un autre monde est possible. Je lui ai répondu, notre monde est possible. Parce qu'on est lié, lié. Parce qu'on est plié, plié. Relevez-vous, vous n'êtes pas seul, on est des milliers, milliers. Qu'on se protège, qu'on se promette d'être meilleur, un peu meilleur à la prochaine. Je voulais écrire One Love sur les grands titres. One Love sur les grands titres. Je me sens comme une tortue dans un grand prix. Dur de devenir un adulte avant de grandir. Avant de grandir, je rêve que ma vie est belle. Les racines et les ailes, pas les machines et les pelles. J'avais le meilleur rôle, je finis erreur de casting. La nature est drôle, elle nous fera bouffer nos plastiques. Classique, planète pêle-mêle, elle renaîtra d'elle-même. Tu me parles de terre-mère, pour nous c'est la dernière caille. Tant que l'amour fait pas l'unanimité, ne confond pas la fin du monde et la fin de l'humanité. Yeah. Yeah. Je voulais écrire. Hein. Je voulais écrire. Vous n'êtes pas seul, on est des milliers et milliers.
Priorité santé sur RFI, environnement et santé aujourd'hui, toujours en direct du Sénégal, le professeur Abdoulaye Ley. chef du service de médecine interne, endocrinologie, diabétologie au Centre hospitalier national universitaire de Pikine. Dans nos studios RFI, docteur Lucille Cézé, pneumologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Docteur Cézé, changer d'air au sens propre comme au figuré. On a parlé tout à l'heure des facteurs de vulnérabilité. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, on n'est pas tous égaux face à la pollution. Et on souligne souvent la sous-estimation de la qualité de l'air intérieur. Ça aussi, c'est de l'environnement. Ça veut dire qu'il peut y avoir là, on parlait tout à l'heure bien sûr de cette action collective qui est la plus importante, mais nos actions à nous, chez nous, quand on respire mal, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison?
Alors oui, il y a déjà, tout d'abord, se sensibiliser à la météo de la pollution. Ça, c'est une première chose que je dis. Parce que la pollution n'a pas de frontières quand même, hein, donc celle d'extérieur se rend à l'intérieur. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, c'est effectivement aérer régulièrement, plutôt après un épisode de pluie, tous les jours, sinon le matin tôt. Éviter toute forme de co-exposition et surtout de combustion en particulier. Donc par exemple, cheminée, foyer ouvert. Ça émet énormément de...
Feu de cheminée, non
c'est... Feu de cheminée, foyer ouvert, c'est vraiment très émissif.
Ah oui, ouais.
Alors, un serre, ça réduit. Mais voilà, la combustion, en réalité, voilà, toute forme d'encens et autres polluants qui produisent énormément de composés organiques volatiles. On dit également que tout ce qui est peinture ou produit de l'habitat assez neuf, il vaut mieux faire de la récupération, avoir des objets plutôt qui ont déjà une seconde main, quoi. Voilà, et surtout...
Il y a des produits qui sont dits écologiques, y compris en matière de décoration. On peut se fier à ce genre de choses ou c'est plus du marketing?
Il doit y avoir un peu de marketing. Ce qui est certain, c'est qu'après, il faut limiter les produits très toxiques. Par exemple, refaire la chambre d'un bébé avant qu'il naisse, on conseille de plutôt...
D'aller vers certains produits.
Oui, et puis surtout prendre des tout ce qui est lit et des choses de seconde main qui ont déjà vécu. Voilà, donc c'est vraiment ne pas faire de pas produire d'encens, éviter les parfums et puis nettoyer avec des choses simples. Vraiment, savon noir.
Retour aux produits essentiels.
Voilà.
Professeur Abdoulaye Laï, dans votre domaine, l'endocrinologie, prise en charge d'une maladie comme le diabète, c'est vrai qu'on ne fait pas forcément lien entre les facteurs de stress et cette maladie chronique. Quand on vit dans un environnement où il y a beaucoup de bruit, où il y a beaucoup de stress, la ville, les transports, comme disait tout à l'heure Maurice à Kinshasa, ça peut aggraver une maladie chronique. C'est un facteur aggravant, comme on dit.
Absolument.
Oui.
Absolument, par plusieurs biais. Si c'est le biais endocrinien, on sait que de façon très simple, quand quelqu'un est tout le temps stressé, il sécrète beaucoup de cortisol. On sécrète beaucoup de cortisol, on a tendance à prendre du poids, à faire de l'hypertension artérielle, à perturber son métabolisme lipidique. Quand on est déjà diabétique et qu'on est stressé, son diabète va se déséquilibrer toujours par le biais de cet excès de cortisol. En sachant que ce n'est pas que le cortisol qui est élevé, il y a toutes les hormones de stress, l'adrénaline, la noradrénaline, les hormones de croissance, etc. Et donc, ne serait-ce que de ce point de vue, on a des démonstrations avérées de ce lien directement et indirectement sur la survenue, la progression et de ces maladies chroniques, surtout. Si c'est dans le cadre du syndrome métabolique, c'est-à-dire d'associer l'obésité, l'hypertension, le diabète, l'excès de cholestérol avec leurs conséquences sur le cœur, l'AVC, donc pour le cerveau, etc.
Alors, donc, on va parler, excusez-moi, professeur, on va parler maintenant d'une autre facette des conséquences du stress et de l'anxiété et aussi des troubles du sommeil, puisqu'on rejoint maintenant le docteur Théo Corchia. Bonjour docteur.
Bonjour à vous, je vous remercie de m'avoir invité pour parler de ce sujet.
Alors, on vous retrouve en ligne du continent américain, puisque c'est à l'université McGill que vous êtes actuellement en train de travailler en tant que chercheur. Et vous êtes chef de clinique de psychiatrie à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. C'est vrai qu'aussi pour la santé mentale, ces facteurs environnementaux, ça compte beaucoup, ça joue un rôle important. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la mécanique, de quelle manière, avec peut-être un exemple concret ?
Oui, bien sûr, on sait à présent que notre environnement influence notre santé mentale en créant un lien entre notre bien-être et les conditions environnementales dans lesquelles on vit tous les jours. On se rend compte par exemple que l'exposome, qu'on peut définir comme l'ensemble des expositions environnementales auxquelles on est soumis depuis la naissance, c'est un élément capital pour comprendre et pour améliorer la prévention en santé mentale. De façon globale, pour répondre à votre question et pour commencer, on sait bien que les environnements sains, bien sûr, et favorables peuvent contribuer à réduire le stress, à améliorer l'humeur et à favoriser un meilleur équilibre émotionnel. On va rentrer dans le détail de ces facteurs justement, mais ce qu'il faut bien comprendre avant d'aller plus loin, je pense, c'est qu'il y a une vraie interdépendance de certains facteurs. On a commencé à l'évoquer avec mes collègues juste avant, mais que ce soit le bruit, la pollution, les espaces verts, c'est parfois complexe d'étudier isolément à large échelle chaque facteur.
Alors justement, on va parler de cet environnement global avant de poursuivre avec vous. Une centaine de professionnels de santé ont alerté les pouvoirs publics au sujet de l'impact du bruit sur la santé. Une tribune qui a été publiée par le journal Le Monde en décembre, avec notamment les effets en termes d'espérance de vie carrément pour les riverains des aéroports, risque aggravé de maladies cardiovasculaires. On va entendre tout de suite un témoignage. Ce témoignage, c'est celui de Catherine Bouvier. Elle a 59 ans, elle est directement concernée. Elle vit à Taverny, c'est dans le Val d'Oise, une vingtaine de kilomètres de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. C'est l'un des deux grands aéroports autour de Paris. Notre reporter Charlie Dupiot s'est rendu chez elle. Et difficile, dès le jardin, d'ignorer le bruit des avions.
Donc effectivement, là, on est en phase d'atterrissage. Il fait beau, c'est l'été, on a des vents chauds et l'air chaud qui conduit très bien le bruit. Donc on entend les atterrissages des avions sur Roissy.
On le voit là, l'avion ?
Alors il est déjà passé, mais ils sont environ à 1000 mètres, donc c'est pas très très haut. On arrive bien à voir le nom de la compagnie, etc., les moteurs, voilà.
À quelle fréquence vous entendez les avions de chez vous ?
Alors ça dépend aussi des horaires, mais il y a des moments où c'est en continu, c'est-à-dire que le bruit de l'avion s'éloigne et il y en a un autre qui arrive. Et ça c'est beaucoup le matin, le soir, la nuit, ça dépend des configurations aussi. Mais il y a environ 600-700 vols par jour, donc par 24 heures, et c'est H24 ici à Roissy, il n'y a pas de couvre-feu.
600 à 700 vols par jour qui survolent la commune ?
La commune, oui, là c'est pour le doublé nord de Roissy, il y a deux doublés de pistes d'atterrissage décollage, il y en a une plus au sud et une plus au nord, donc là on est sous le doublé nord, et là vous voyez on a un avion qui arrive et qui va atterrir, donc... Vous voyez qu'il est présent très longtemps. Bon, là, c'est un petit peu délicat dès que le beau temps arrive et qu'on a des atterrissages, on continue avec ces bruits aigus. Et l'hiver, on est plus calfeutré chez soi. Mais là, l'été, on aimerait faire des barbecues avec les amis, etc. Parfois, on est obligé de s'arrêter de parler. Donc, on ne peut pas profiter du jardin l'été dès que les beaux jours arrivent. Et la nuit, on ne peut pas dormir fenêtre ouverte, c'est impossible. Donc, ça pose des gros problèmes.
Alors, on peut peut-être rentrer chez vous ?
On va rentrer.
Et vous habitez depuis combien de temps ici ?
Depuis à peu près 60 ans, j'y suis presque née. Donc, c'est l'essentiel de ma vie ici.
Quels sont les effets sur votre santé de ces bruits aériens presque en continu ?
Bon, alors moi, c'est clair, j'ai une perturbation de mon sommeil, c'est-à-dire que je ne fais jamais de nuit continue. Donc, si je me réveille, j'ai des battements de cœur, etc., parce que c'est un réveil en sursaut, puisque ce sont des émergences qui sont très, très fortes. Donc, vous allez avoir du stress. On ne s'y habitue pas et le cerveau ne peut pas se dire tout seul comme un grand « Ah ben non, rendors-toi, puisque tu sais bien que c'est un avion ». Au contraire, il y a des moments où on fait des cauchemars. On a l'impression qu'il y a un avion qui tombe dans le jardin ou qu'il y a un bombardement, parce qu'on est quand même aussi influencé par l'actualité, malheureusement.
Vous avez déjà fait ces cauchemars-là ?
Bien sûr. Donc ça, on ne se rendort pas tout de suite quand on a eu un gros coup de stress. Si vous vous réveillez tout d'un coup parce qu'il y a une porte qui claque ou quelque chose comme ça, vous le savez bien, on ne se rendort pas. Et moi, je finis par lire ou écouter la radio, etc. Peut-être somnoler, mais ce sont des nuits hachées et le sommeil par bribes ne remplace pas une bonne nuit de sommeil.
Et vous diriez que vous êtes réveillée combien de fois par nuit ?
Je dirais 2-3 fois par nuit. Alors, quand le trafic reprend très, très fort, il n'arrête jamais, mais il reprend très fort à partir de 5 heures. À partir de 5 heures, c'est impossible de se rendormir. Il y a des gens qui aménagent leur cave, qui insonorisent des pièces, etc. Moi, je ne peux pas dormir dans ma cave quand même. Mais je comprends ça. J'ai la boule au ventre. Quand j'ouvre les yeux le matin dans mon lit, je me dis « Ah, il va falloir affronter encore une journée ». Je suis fatiguée parce que je sais que je ne me suis pas reposée, je ne me suis pas reconstituée, que mon cerveau n'a pas pu recharger ses batteries, faire le tri dans mes souvenirs, etc. Et beaucoup de choses que j'oublie. Beaucoup de migraines pour lesquelles je suis obligée de prendre des calmants, des antidouleurs, au moins toutes les semaines. Donc l'autre impact majeur sur ma santé personnellement, c'est l'hypertension qui est en augmentation continue d'année en année. Donc là, j'ai du trouble du rythme aussi qui ont déjà été détectés. Donc il faut que je sois suivie également à ce niveau-là.
Et vous, les troubles du rythme, ils ont commencé à combien de temps ?
Vers 40 ans, c'est-à-dire il y a 20 ans déjà. Bon, j'ai choisi de rester ici. Enfin, nous avons choisi de rester ici et il le faut bien puisque bon, le travail est là. Bon, à terme, je pensais à déménager dans quelques années. Là, bon, il se trouve que j'approche de la retraite. Là, je ne resterai pas dans ces conditions-là, mettant en péril ma santé, même si je suis très attachée à ma maison, à ma commune et à mon cadre de, enfin, à tout ce qui a fait mon histoire et mon trajet ici. Mais c'est malheureux, mais il va falloir que je m'arrache d'ici pour me préserver.
Catherine Bouvier, secrétaire de l'association Advocnar, une association de défense contre les nuisances aériennes. Ses adhérents réclament notamment l'instauration d'un couvre-feu nocturne, hein, retrouvé ces nuits pour l'aéroport de Roissy. Ça existe déjà dans l'autre aéroport à Orly. Alors, changer d'environnement pour se préserver, changer aussi certaines règles, hein, pour préserver les populations. On vous retrouve, docteur Théo Corchia. On entend là directement ce lien entre qualité de vie et santé mentale.
Oui, clairement, pour rebondir sur le témoignage, en fait, le bruit, et en particulier le bruit constant, peut surcharger nos systèmes sensoriels et déclencher des réponses de stress physiologiques, ce qui peut avoir un impact très néfaste sur notre bien-être émotionnel. C'est pour ça que le bruit excessif renforce le stress chronique, la dépression, les difficultés de concentration et de mémorisation, mais aussi les troubles du sommeil. Je rebondis sur cette notion de troubles du sommeil qui était évoquée dans ce témoignage, parce que c'est un élément capital qui permet, je pense, de mieux comprendre l'impact complexe de notre environnement, en particulier comme le bruit. On l'a répété, l'environnement, ça peut avoir un impact néfaste direct, mais aussi de façon indirecte, via par exemple le sommeil et sur les fonctions instinctuelles, puisque le sommeil, on le sait très bien et c'est très étudié à présent, va avoir des répercussions extrêmement négatives sur notre qualité de vie.
Et d'ailleurs, en santé mentale, détérioration du sommeil, insomnie, trouble du sommeil, ça fait partie très souvent du faisceau des symptômes qui vont aller vers la possibilité d'établir un diagnostic.
Exactement, et on s'en rend compte facilement nous-mêmes au quotidien. Après une nuit d'insomnie, on est tous nous-mêmes plus fatigués le lendemain, plus irritables pour certains. Et si ces insomnies se prolongent trop longtemps, c'est un facteur favorisant pour une détérioration de votre humeur sur le moyen terme, voire sur le long terme. Mais c'est aussi un terreau malheureusement plus fertile à d'autres maladies mentales.
Déménager sur prescription, docteur Théo Corchia, on sait bien que vous êtes psychiatre, hein, vous n'êtes pas non plus agent immobilier, mais est-ce que ça peut arriver que dire à un patient, pour préserver sa santé mentale, il va falloir que vous changiez d'air, changer de cadre de vie? Est-ce que c'est possible?
Alors, on y a été confronté ces dernières années de par la pandémie. Bien sûr que si on ne regarde que des éléments comme la pollution de l'air ou la quantité d'espace vert entre les grandes zones urbaines et des zones dites rurales de moins grande densité, il n'y a pas photo. Je ne vous apprends rien. Évidemment que si vous vivez dans un petit village des Alpes dans le Massif central, votre accès à la nature, il va être beaucoup plus facile. Si vous viviez à côté... le périphérique à Paris, par exemple.
Mais d'ailleurs, avant, on envoyait les gens au sanatorium quand ils avaient la tuberculose. Les personnes, elles partaient en cure. Je me souviens, quand j'étais petite, c'était à la Bourboule ou des choses comme ça. Bref, on s'aérait, on s'oxygénait quand ça allait mal. Aujourd'hui, les gens partent en vacances. Mais on a l'impression que ce rapport à la nature santé, il a un petit peu changé dans notre société qui va très, très vite.
Complètement d'accord. Et je rebondis encore une fois sur ce qui s'est passé pendant la pandémie. On a, pour beaucoup d'entre nous, parfois c'est nous-mêmes, parfois c'est des amis à nous, qui ont eu la chance de pouvoir déménager et de changer un petit peu leur rapport à la nature pendant la pandémie et se rendre compte que justement, pendant cette période-là, si on se rapproche un petit peu plus de la nature, il y a des possibilités de changement et on s'en rend compte rapidement.
Y compris dans les rapports interpersonnels, y compris sur la santé de la famille. Docteur Lucile Cézé, vous vouliez réagir justement sur ce changement d'air?
Oui, tout à fait. Je voulais réagir sur le fait que vous demandiez si nous, en tant que soignants, on prescrit le changement d'habitat. On y est confronté, on a beaucoup de personnes qui vivent dans les logements insalubres, avec des expositions aux moisissures qui peuvent être la cause d'une maladie respiratoire chronique, voire fibrosante, ou d'asthme très sévère. Donc là, nous, effectivement, les soignants, on a un rôle à témoigner de la gravité de la situation de la santé respiratoire et de faciliter des relogements ou des assainissements de logements grâce à des conseillers médicaux en environnement. On en a très peu et de moins en moins en France, et c'est vraiment des personnes clés qui nous aident à assainir l'environnement de patients ou de sujets vulnérables. Et donc, c'est vraiment important qu'on puisse continuer à travailler avec ces gens-là parce qu'on a beaucoup de gens malades de leur logement et qui sont dans des logements sociaux dans lesquels ils peuvent pas quitter facilement. Mais voilà, nous, en tant que soignants, on peut appuyer pour améliorer la situation localement.
Des personnes malades de leur logement, docteur Lucille Cézé également, des personnes malades de leur travail. Bien sûr, il va y avoir le rapport social, il va y avoir un rapport peut-être de violence interpersonnelle. Ça, c'est pas vraiment notre sujet du jour. Mais par contre, une exposition à des facteurs de risques environnementaux sur les lieux du travail.
Oui, alors tout à fait. Nous, par exemple, on voit beaucoup de patients qui travaillent dans des métiers qui sont associés à des expositions professionnelles nocives. Hein. On a toujours l'amiante. On a quand même beaucoup de bâtiments encore construits en amiante et qui sont détruits. La silice, il y a eu un rapport de l'ANSES récent qui dit que les niveaux d'exposition, en particulier dans le bâtiment, dépassent les limites seuil autorisées et qu'en réalité, on a beaucoup de patients exposés à la silice. Et donc, sur le plan professionnel, nous, la plupart de nos patients qui ont une maladie respiratoire ont un environnement professionnel qui n'est pas forcément très sain. Donc certainement, il y a tout un volet exposition au niveau professionnel sur lequel nous, d'un point de vue de recherche, on continue à travailler là-dessus pour nos patients.
Docteur Théo Corchia, pour conclure en votre compagnie, est-ce qu'on n'a pas un petit peu dans votre approche en psychiatrie des retours qui disent que c'est quelque chose de beaucoup trop large de parler de l'environnement, on voudrait s'attaquer aux symptômes, aux médicaments, vous sortez un petit peu de votre cadre où aujourd'hui, avec tout ce qui se dit sur l'éco-anxiété, sur toutes ces, notamment dans la jeune génération, des véritables troubles psychiques qui sont directement liés aux risques climatiques. Est-ce que tout ça, ce n'est pas en train de montrer comme une discipline dans la discipline ?
C'est extrêmement intéressant ce que vous soulignez parce qu'on avait évoqué l'impact direct de l'environnement sur notre santé, mais je voulais justement pouvoir souligner aussi un élément dont on parle de plus en plus fréquemment aujourd'hui, l'éco-anxiété. C'est intéressant parce que je trouve que ça montre bien qu'il n'y a pas que la dégradation de l'environnement qui a un impact négatif sur notre santé et notre santé mentale dans ma discipline, mais aussi notre perception même de cette dégradation qui va être source de stress. Ça, c'est un élément qui est capital et qu'on connaissait encore très très peu il y a une dizaine d'années en arrière.
Mais c'est encore une fois quelque chose qui nous invite. Tout à l'heure, on avait un auditeur de Kinshasa, Maurice, qui regrettait, comme on dit, ces vertes années, qui incite à dire... Écoutez-vous, quand vous êtes au bout du boom, allez vous mettre au vert. Est-ce que c'est quelque chose ? Bien sûr, il y a toutes les conditions économiques, budgétaires pour pouvoir le faire. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous diriez ? On dit aujourd'hui qu'on recommande aux patients de faire du sport sur ordonnance. Est-ce que vous recommanderiez des cures de vert, des cures de nature sur ordonnance, vous aussi ? Ou de mer ?
Je pense que ce serait une bonne chose, mais j'aimerais bien qu'on puisse avoir aussi un discours plus optimiste sur cette thématique. Alors, je comprends que ce soit parfois difficile lorsqu'on parle d'écologie ou de lien entre santé et environnement. C'est parfois fréquent de faire des discours fatalistes, mais de mon point de vue, ça ne semble pas être le meilleur angle d'attaque, justement pour cette raison-là. Déjà parce que ça n'améliore pas une situation qui est améliorable. Alors que si on fait le contraire, qu'on essaye de modifier justement les petites choses dont vous parlez dans son propre quotidien, je ne vous dis pas d'entreprendre forcément des grandes mesures collectives, non, simplement déjà des petites choses pour vous, au quotidien, c'est ça qui est important. En vous aidant à améliorer votre propre santé, vous allez, un, diminuer l'impact négatif que peut avoir votre environnement sur votre santé mentale, deux, vous allez, parce que vous changez, diminuer l'éco-anxiété, dont on a parlé, et trois, en même temps, vous améliorerez aussi l'environnement. Et ces petites choses au quotidien dont je parle, ça peut être des points qui paraissent parfois anecdotiques au début, mais qui vont pour autant grandement améliorer votre santé au fur et à mesure. Et vous me parliez la mise au vert, c'est quelque chose qu'on propose de plus en plus. Alors évidemment, il faut pouvoir le faire, mais sans forcément aller jusqu'à des déménagements et des changements de mode de vie radicaux. Je pense que pour améliorer sa santé, on peut se focaliser sur des détails, des choses qui peuvent paraître très simples et sans forcément avoir d'énormes conséquences et qui pour autant en ont. Par exemple, si vous vous forcez à régulièrement faire aux alentours de 8-10 000 pas par jour, à marcher un peu plus dans les espaces verts, à essayer de moins prendre la voiture, à plus prendre le vélo, tous ces petits efforts, avant d'être profitable à la planète, c'est d'abord à vous qui vont faire du bien. Et je pense que c'est comme ça qu'il faudrait qu'on puisse raisonner pour améliorer à la fois l'environnement et la santé mentale par rapport à l'environnement.
Parce que c'est bon pour le moral. Merci beaucoup, docteur Korchia, d'avoir répondu à nos questions. Professeur Abdoulaye Ley, c'est vrai qu'on peut faire des gestes individuellement, mais ça n'éloigne pas, hein, vous êtes toujours en ligne de Dakar, les éléments qui dépendent des pouvoirs publics, des décisions qui dépassent même parfois le cadre national. Professeur Abdoulaye Ley, j'évoquais tout à l'heure l'interdiction de certains produits toxiques. On a parlé avec vous des perturbateurs endocriniens. Est-ce que vous avez le sentiment que l'État, chez vous, joue pleinement son rôle en la matière?
Il y a beaucoup de théories, tout est connu en théorie, même les stratégies à mettre en place, c'est très bien théorisé, il y a des séminaires, etc. Mais la mise en œuvre, c'est vraiment, j'allais dire, un porte-à-faux, hein, parce qu'il faut déjà envisager dans les projets, avoir des espaces souvent cyclables, ne pas mettre des buildings partout sur les espaces verts, c'est ce qu'on voit. Dans des cités où il y a ce qui était prévu pour les aires de jeu ou les espaces de détente.
C'est vrai qu'en ce moment, à Dakar, c'est plutôt la bétonisation à tout va. Hein?
Absolument. Et maintenant, quand on a la possibilité, ou même quand on est obligé de sortir de Dakar pour avoir l'air, après on est rattrapé par le transport pour revenir à Dakar travailler.
Donc on comprend bien l'immensité du chantier à venir, docteur Lucile Cézé. Le mot de la fin, conduite individuelle, on en a parlé tout à l'heure, notamment ce qu'on peut faire chez soi, mais là encore, les pouvoirs publics, on a envie de dire à vous de jouer maintenant.
Oui, tout à fait. Et c'est vraiment important d'avoir bien conscience que la population ne peut pas s'extraire à cette exposition de la pollution de l'air. Et puis, l'autre note d'espoir, c'est que maintenant, et je rebondis sur ce que disait le docteur Korchia, c'est qu'on travaille sur l'exposome, nous, médecins-chercheurs dans l'environnement, c'est-à-dire qu'on a une approche holistique de toutes ces expositions pour comprendre les maladies chroniques. On n'a plus une hypothèse, une exposition, une maladie. On prend ça dans son ensemble sans a priori. Et on espère avoir des réponses plus poussées, découvrir de nouvelles expositions et pouvoir avancer avec des preuves scientifiques pour obtenir une meilleure qualité de l'air.
Un grand chantier, on l'a compris. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe. Demain, on va parler des complexes physiques. Comment les atténuer? Comment s'en débarrasser? On se dit à demain, 9h10 temps universel. Et d'ici là, portez-vous bien.